Père, nous sommes venus à ta rencontre. Tu nous as conviés parce que tu désires nous façonner. Donne-nous de ne point trouver en ta parole notre condamnation, mais de voir ton désir de nous relever, de nous donner de vivre selon tes standards. Comme une biche soupire après les courants d'eau, nos cœurs soupirent après toi. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 27 à 38. Là, il est écrit. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée et secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, j'aimerais à l'entame de cette prédication vous poser deux questions pour lesquelles je vous invite à répondre. Qui parmi nous ici présents ne souhaiterait pas être aimé? Il lève la main. Qui dans cette salle ne voudrait pas être aimé? Personne? Okay. Qui dans cette salle souhaiterait avoir un ennemi? Qui dans cette salle souhaiterait avoir un ennemi? Encore personne. Ça veut dire que nous ne voulons pas avoir des ennemis. Nous voulons être aimés. Conclusion, nous avons déjà compris la prédication. Bien-aimé peuple de Dieu, s'il y a un mot ou un verbe qui traduit toute la nature et le caractère de Dieu, c'est celui d'amour ou aimer, ou le verbe aimer. Ce caractère est souhaité par tous les hommes. Nous venons d'en avoir la preuve. Tous les hommes désirent
être aimé. Et tous les hommes ne souhaiteraient pas avoir des ennemis. En effet, ce n'est donc pas l'amour qui est un problème, mais c'est vivre l'amour ou vivre dans l'amour qui pose problème au milieu des hommes. Au nom d'un prétendu amour, les hommes commettent le péché. Au nom de l'amour, des crimes sont commis et orchestrés ça et là. C'est également au nom de l'amour pour la patrie, amour entre guillemets, que des personnes civiles comme militaires sont dans plusieurs conflits assassinés. Des frères qui hier dans l'église s'embrassaient, se fréquentaient, se regardent aujourd'hui comme des ennemis, tout simplement parce que pour un prétendu amour, ils se sont repliés sur eux-mêmes. Dans les familles, les hommes et les femmes qui se sont déclarés amour pour la vie à cause de l'amour pour les biens matériels ou pour le péché de l'adultère, regardent leurs femmes ou leurs maris comme des ennemis. Des gens qui hier se couchaient dans un même lit font maintenant chambres séparées. Cher peuple de Dieu, c'est fort de ce constat que Dieu nous invite à l'amour pour tous les hommes en général et l'amour pour ceux qui déclarent être nos ennemis. En cela, le thème de notre prédication est intitulé « L'amour des ennemis et ses implications ». Il s'agit de l'amour des ennemis du chrétien, car l'amour de Christ en nous empêche le chrétien d'avoir des ennemis. Même si on peut constater que des frères qui sont dans l'église et qui se côtoient ne se saluent pas, se considèrent comme des ennemis. On parle là des frères et sœurs, pas en Christ, mais en crise. Notre texte, faisant suite au sermon sur la montagne, qui à travers le terme « heureux » annonce les prémices du royaume par les béatitudes, s'intéresse à l'amour des ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Mes frères et sœurs, pour Jésus, aimer son ennemi, c'est non seulement lui montrer son erreur, mais surtout prendre soin de lui. Cet amour vise à libérer ce dernier de la haine, de la jalousie ou d'un éventuel crime ou méchanceté qu'il méditerait pour commettre dans son cœur. Aimer nos ennemis, c'est aussi pour notre sécurité. Car si tu n'aimes pas ton ennemi, tu demeures en insécurité. Parce qu'à tout moment, il méditera des choses contre toi. Ton amour pour ton ennemi le désarme donc. Ton amour pour ton ennemi l'empêche de faire de toi une victime. Mais ton amour pour ton ennemi lui donne d'abandonner ce mauvais sentier. Ainsi donc, faire du bien à son ennemi ne doit jamais être proportionnel à ses actions. Certains estiment que leurs ennemis ne méritent pas qu'on leur accorde une attention. Et c'est ce qui entraîne le fait que les gens ne soient pas capables d'aimer leurs ennemis. Tout simplement parce qu'ils sont focalisés sur le mal qui leur a été fait, sur le mépris dont ils ont été l'objet, sur l'injustice dont ils ont été victimes. Je voulais te dire, mon frère, ma sœur, plus tu regardes la faute commise par ton ennemi, moins tu es capable de l'aimer, de l'amour de Christ. L'amour dont il est question ici pour son ennemi, c'est un amour surnaturel, dont seuls les enfants de Dieu sont capables de le faire. Et pour y arriver à un tel amour, il faut avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance, de la repentance. Car se souvenir qu'un jour, nous avons été tous ennemis de Dieu à cause de nos crimes, mais Dieu n'a pas passé le temps à considérer ceci. Mais par amour pour chacun de nous, il nous a pardonné, indépendamment du mal que nous avons commis. Nous sommes même allés jusqu'à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, Jésus a subi toutes les humiliations à notre nom à la croix. Et malgré cela, il nous a pardonné, il nous a réconcilié. Nos relations sont paralysées à cause de l'absence d'amour pour nos ennemis. Comment comprendre que des personnes manifestent ouvertement leur haine au point d'éviter de se retrouver au même endroit les uns avec les autres? Une femme et son mari qui vivent dans la maison comme le chat et la souris, se promettant menaces et même mort. Conséquence, chacun à sa chambre pour sauver sa tête. Si tu es dans une telle situation, Dieu t'offre l'opportunité d'expérimenter cette ordonnance. Aime ton ennemi, aime ton mari, aime ta femme. Le chrétien peut être haï, mais sous aucun prétexte, il ne doit haïr ni avoir des ennemis ou des personnes comme ennemis. Quelle attitude chrétienne envers nos ennemis? Jésus invite ses auditeurs à déclarer des bénédictions sur ceux qui sont nos ennemis. Il s'agit de relâcher les paroles qui vont faire de leur vie une source d'abondance, de paix, de joie et d'amour. Pour cela, Jésus nous recommande de prier pour nos ennemis. Il s'agit de les porter devant le trône de la grâce de Dieu jusqu'à ce que l'image et la nature de Christ soient manifestées dans leur vie. Bien-aimés, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas demandé de changer nos ennemis, mais de les aimer de son amour en nous. Certains se découragent parce qu'ils voudraient changer leurs ennemis. Ils prétendent, je le salue, il ne répond pas. Tu le salues, il ne répond pas, et quoi faire? Salue-le toujours. Tu salues, il ne répond pas, tu continues à le saluer. Mais tu ne le salues pas parce que la salutation ici, si ce n'est pas le symbole d'amour, ça ne sert à rien. La salutation pour le chrétien n'est pas une formule de politesse, mais c'est un élan de cœur, un désir de partager la joie qui nous anime et de souhaiter le bonheur pour celui qui est en face de nous. Il s'agit là d'un amour surnaturel qui ne peut être manifesté que par celui qui connaît Jésus-Christ. Seul le chrétien affranchi du péché peut aimer et pardonner véritablement. Si quelqu'un te violente ou te méprise, ne rends pas. Jésus va même plus loin. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre joue. Comment? Est-ce que c'est sérieux? Si quelqu'un prend ton manteau, donne-lui même ton sac, il part avec tout. Est-ce que c'est sérieux? Seul l'amour de Christ en nous
peut nous amener à cela.
En effet, Jésus ne voulait pas dire que si quelqu'un te gifle, si tu lui montres l'autre pour qu'il gifle.
Non, il ne s'agit pas de ça.
Si quelqu'un t'offense, tu lui pardonnes. Si quelqu'un te méprise, qu'il reçoive en retour ton pardon. Si quelqu'un abuse de ta confiance, qu'en retour, tu lui pardonnes. Oui, combien de chrétiens sont au tribunal ou ne se parlent plus, tout juste à cause d'un bien ou d'une somme d'argent qui ne leur a pas été restituée. Cependant, Jésus ne voudrait pas dire qu'il faut arracher les biens des autres ou solliciter une aide financière et ne pas restituer. Le faire, c'est être malhonnête. Si tu es chrétien, tu prends l'argent à ton frère, tu ne remets pas, tu es malhonnête. Mais Jésus voudrait tout simplement nous inviter à être différents des païens. Car les païens aiment ceux qui les aiment. Ils donnent à ceux qui leur en donnent. L'amour du monde, c'est la cotisation. Tu m'as donné, je vais te donner. Pour le chrétien, il va au-delà. Parce que s'il ne va pas au-delà, il est un païen comme les autres. Jésus de conclure, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Seul l'amour peut nous permettre d'accomplir ce principe auquel est attaché l'amour fraternel, nous permettre de bâtir des relations solides avec les autres. Chers frères et sœurs, nous sommes une famille chrétienne d'impact. Mais combien de personnes s'asseyent sur le même banc avec leurs voisins sans connaître leur nom et sortent du culte sans jamais même chercher où est-ce qu'ils habitent. Et on retrouve des petits clans à l'église. On parle avec ceux qui parlent avec nous. On salue ceux qui nous saluent. On fait du bien à ceux qui nous font du bien. Nous sommes là dans la dimension que Jésus appelle celle des païens et qui n'a rien à voir avec Dieu. Aimer nos ennemis n'est pas une faveur, mais une exigence qui fait de nous des fils du Très-Haut. Si Dieu ne fait acception de personne, il est bon pour les ingrats et les méchants. Il nous demande donc d'aimer nos ennemis et de leur accorder un bienfait sans condition. Chers frères et sœurs, tu as été trahi, blessé, méprisé par quelqu'un. Cette personne t'a même menacé et tu as commencé à le haïr. Il est possible de changer. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par l'amour que Christ t'invite à manifester pour les autres. Soyez miséricordieux. Ici, la miséricorde, c'est pardonner aux autres. Dans le cas précis, c'est de pardonner à nos ennemis, même si nous avons la possibilité de nous venger, c'est de pardonner. Mes frères et sœurs, à la croix, Jésus a manifesté à mon endroit et pour toi la miséricorde, en ne nous infligeant pas le châtiment mérité. Il veut qu'à notre tour, nous usions de miséricorde envers les autres. L'amour pour nos ennemis ou pour les autres refuse deux attitudes, juger et condamner. Juger, il s'agit de conclure sur les intentions des autres par des préjugés. Étant incapable de sonder leur cœur, il ne faut pas juger. Seul Dieu est juge de nos intentions et de nos pensées. Cependant, le chrétien doit juger, mais il doit juger qui et il doit juger au sujet de quoi. Il doit juger le péché commis dans la famille ou dans l'église, sur la base de la parole de Dieu, il doit ramener le frère qui a péché sur la base de la parole de Dieu. Ainsi, il doit juger entre le bien et le mal, sans soupçonner les motifs ni porter atteinte à la personne. Dieu nous invite à un pardon. Et pour Jésus, dans le texte, il fait allusion à deux types de pardon, le pardon judiciaire et le pardon parental. Le pardon judiciaire est le pardon que Dieu accorde à tous les humains, sans condition, en payant notre dette, indépendamment du bien ou du mal et de qui que nous sommes. Il l'a accordé. Le pardon parental est réservé à ceux qui sont nés de nouveau et qui, lorsqu'ils s'égarent, confessent leurs péchés et obtiennent la miséricorde de Dieu. L'amour nous conduit à la libéralité. Il s'agit de mettre au service des autres nos biens matériels. Dieu nous invite par nos dons à s'aimer dans la vie des personnes de son Église, car nous récolterons ce que nous aurons sémé. À titre d'illustration, toutes les fois que vous crachez en l'air, le crachat retombe d'abord sur vous. C'est pour dire que chacun récoltera ce qu'il aura sémé. Si c'est la haine, tu récolteras ce qui convient à la haine. Si c'est l'amour, tu récolteras ce qui convient à l'amour. Si c'est le bien, en partageant le peu que tu as avec les autres, tu récolteras la sémence qui est attachée à cela. Mes frères et sœurs, vivons dans la miséricorde, vivons dans l'amour, manifestons l'amour à l'endroit de ceux qui sont nos ennemis ou ceux qui ne le sont pas et qui sont autour de nous. Notre amour pour eux suscitera leur conversion, car telle est la différence entre ceux qui servent Dieu et le craignent et ceux qui ne le servent pas. Choisissons d'aimer, car telle est la nature de Dieu, et manifestons la miséricorde qui se traduit par le pardon, et évitons de juger les uns les autres. Que Dieu bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.